Bonjour à tous et bienvenue sur Business Positif. Si vous avez l'ambition de mettre en place les meilleurs leviers marketing à la fois durables, efficaces et alignés avec vos valeurs, vous êtes au bon endroit. Je suis Mélodie Schmoss, entrepreneur de l'impact, et chaque semaine, je pars à la rencontre de ceux qui font du marketing un atout incontournable de leur réussite. Le but ? Vous donner un maximum de clés pour atteindre vos objectifs de business et d'impact. Si cet épisode vous plaît, partagez-le ou laissez-lui 5 étoiles sur Apple Podcasts.
Les modes de consommation, ils sont en train de changer. Les consommateurs, ils sont prêts à donner des insectes à manger à leurs chiens, à leurs chats. Il faut juste éduquer effectivement et rassurer le consommateur.
Aujourd'hui, je cause avec Madeleine Morlaix, cofondatrice de Tomojo, la marque d'alimentation pour chiens et chats à base de protéines d'insectes. Plusieurs personnes m'ont recommandé Tomojo ces derniers mois, notamment pour leur branding hyper marquant, leur approche résolument engagée et l'énergie de ces deux fondatrices. Dans cet épisode, on évoque évidemment tout le développement de Tomojo avec Madeleine, mais comme d'habitude, on fait aussi des focus. On va notamment parler de la campagne d'affichage dans le métro qu'elles ont lancée, dont le but était de faire de la pédagogie pour aider la notoriété de la marque. Le résultat, ça a été plus de 40% de trafic pendant la durée de la campagne sur leur site internet et une hausse significative des commandes. Donc autant dire qu'il s'agit d'une campagne réussie.
Le plus important, c'est quand même ce que le client ou le consommateur comprend, quoi.
On parle aussi du street marketing pour faire découvrir le mojo et piloter l'entreprise en fonction des vrais retours des gens dans la rue. On cause aussi leur stratégie de distribution, d'un e-commerce à la grande distribution, et puis on finit sur leur partenariat Impact avec un ESAT et une association. Mais trêve de causerie, je vous laisse découvrir cet échange.
Salut Madeleine.
Salut Mélodie.
Ravie de te recevoir dans Business Positif pour parler de Tomojo aujourd'hui.
Mais je suis très heureuse de partager aussi ce moment avec toi.
On va parler aujourd'hui de campagne de notoriété notamment, donc ça va être hyper intéressant. Et avant de plonger dans le cœur de notre sujet, je veux bien que tu me refasses un petit topo sur Tomojo, sur qui tu es toi avec Paola, et puis comment vous avez lancé ça et c'est quoi concrètement Tomojo.
Ouais, très bien. Petit, je vais essayer. Donc Tomojo, je dirais que c'est l'enchaînement de plusieurs choses, mais tout d'abord, c'est pendant mes études, j'ai vraiment eu une révélation, mais je me disais, je veux moins manger de viande et je veux consommer surtout différemment, donc de la meilleure qualité et de moins en moins souvent, donc plus une tendance végétarienne. Ça a été couplé au fait qu'avec Paola, on a fait des études dans le développement durable à Londres, et pendant nos cours, on nous a pas mal parlé des protéines d'insectes, mais vraiment comme solution pour nourrir les humains. Donc à ce moment-là, on n'avait pas vraiment eu cette idée de l'appliquer à l'alimentation pour les animaux. Et ce n'est que un an plus tard, quand Paola et moi, on était toutes les deux en train de travailler, elle à Paris et moi à Londres, que j'ai eu cette idée d'intégrer les insectes dans l'alimentation de mon chien qui s'appelle Mojo, d'où le nom de Tomojo. Et en fait, à l'époque, donc voilà, c'est un chien qui est assez sensible et on voulait lui offrir la meilleure alimentation possible en tant que consommateur un peu très à l'écoute de notre chien. Et à l'époque, le message marketing qui avait le plus parlé à ma belle-mère, c'était l'alimentation à base de viande qui est de qualité humaine. Donc, c'est de la viande que nous-mêmes, les humains, on pourrait manger. Et moi, pour moi, c'était vraiment, c'était too much, quoi. Je me suis dit, c'est pas possible, on peut pas donner à Mojo de l'alimentation que nous, les humains, on essaye de réduire en tant que consommation. Et c'est vraiment là où j'ai eu ce déclic. Je me suis dit, mais en fait, quand on nous parlait de donner des insectes à manger à nous, pourquoi pas essayer de les donner aux chiens et aux chats, sachant qu'en Europe, ça coïncidait très très bien en termes de législation, parce que il y avait des fermes d'insectes qui étaient en train d'être construites en France, en Hollande, c'était en fin 2017 et ils venaient d'avoir l'autorisation justement de nourrir ces chiens. Ces chiens et ces chats avec des insectes qu'on élève dans des fermes verticales. Donc, c'était l'enchaînement de plusieurs choses et le fait que Paola, elle a eu cette idée de postuler à Ticket for Change, et donc on a fait ce parcours d'entrepreneuriat et je dirais qu'au bout de 8 mois, on s'est vraiment dit effectivement, il faut qu'on lance ce projet, même si on n'y connaît absolument rien à l'alimentation animale ni à l'élevage d'insectes.
Et du coup, vous lancez la marque. Vous, de ce que j'ai cru comprendre, donc vous avez conçu les formules, parce que bah voilà, vous saviez pas comment on fabrique concrètement des croquettes, quoi. Donc vous avez conçu des formules avec des experts, vous êtes entouré. Et vous étiez combien au début, vous êtes combien aujourd'hui pour gérer tout ça?
Ouais, donc déjà pour dire que Tomojo, donc c'est une alimentation pour chiens et chats qui est équilibrée, qui est à base de protéines d'insectes. Ces protéines, elles sont traçables et la production de ces protéines œuvre en faveur du développement durable. Donc c'est vraiment ça, pourquoi en fait on a voulu créer Tomojo. Et ensuite, effectivement, de comment on est passé à Paola et Madeleine qui avons eu cette idée. Nous maintenant, on est 17. On a eu plusieurs phases, encore une fois, mais au tout début, pour nous, l'enjeu c'était de tester au plus près des consommateurs. Donc, on a trouvé une recette sur Internet. Enfin, c'était vraiment très artisanal, on va dire, de croquettes. On a commandé de la farine d'insectes. On a fait ces petites croquettes nous-mêmes, on va dire. Et on est allé dans des parcs au Butte-Chaumont et au Bois de Boulogne. Et on est allé distribuer ces croquettes juste pour voir si les propriétaires de chiens étaient prêts à donner à manger des croquettes à base d'insectes à leurs chiens et si les chiens ils les mangeaient. Une fois qu'on avait validé cette étape-là, on s'est dit « Ok, on tient un peu un truc là ». Donc, on a commencé à essayer de rejoindre un incubateur dont Willa, donc, qui aide des femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat. Et de fil en aiguille, on a pu avoir accès à des financements donc via la BPI. Et puis, on a aussi fait une levée de fonds auprès d'un business angel qui était lui-même dans ce milieu de l'alimentation pour les animaux domestiques. Et ça nous a permis vraiment, au bout d'un an, de trouver un vétérinaire qui a formulé nos recettes, de trouver un partenaire de production en Mayenne qui voulait bien faire des croquettes à base d'insectes, parce que c'était la première fois, hein, donc il a fallu convaincre tout ce beau monde et mettre en place des partenariats d'approvisionnement donc pour les insectes avec des fermes d'insectes qui venaient de terminer de se construire, etc. Et donc je dirais qu'en juin 2019, on a pu lancer nos deux premiers produits qui sont chiens et chats adultes que vous connaissez, qui sont sur notre site actuellement. Et à l'époque, on a eu Héloïse qui nous a rejoint en marketing. C'était notre première recrue en marketing digital parce que nous, on a commencé sur Internet. Après, on a eu d'autres canaux de distribution, on pourra en parler après. Et de fil en aiguille, on a commencé sur Internet et puis on a eu d'autres opportunités et on a pu faire d'autres levées de fonds, etc. Et maintenant, ouais, on est 17.
Et du coup, on va entrer directement dans les sujets MarketCom et avant même d'aller dans la notoriété, parce que c'est intéressant ce que tu dis justement sur ce qu'a mis en place Héloïse. Moi, c'est ce que je te disais. Je crois que j'ai entendu parler, on m'a contacté donc à plusieurs reprises et puis j'ai entendu parler de vous plusieurs fois. Où je me disais, c'est un peu récent. Et puis après, je me disais, non, mais quand même, ils arrivent à faire du bruit, ils arrivent à être dans les grands médias. Donc, encore une fois, on va en parler. Ils arrivent à avoir un message hyper catchy. Vous avez un super branding. Donc, comment vous avez mis ça en place? Ça a été quoi un petit peu les étapes? Donc, de Tomojo, on fait une marque, on teste au Bois de Boulogne, nos recettes. Donc, on va devoir faire aussi le packaging, etc. Comment vous avez mis ça, en place? Est-ce que c'est toi et Héloïse? Est-ce que vous vous êtes fait aider? Ça a été quoi les réflexions? C'était quoi au final sur ce business-là que vous avez? Le plus important, c'est le packaging? C'était la distribution sur Instagram? C'était la présence plutôt sur Instagram? C'était le site internet? C'était quoi un peu vos prios, quoi?
Oui, alors je dirais au début que c'était le nom, parce qu'au tout début, on s'appelait Entomojo. Entomo, ça veut dire insecte en grec ancien, et donc Tomojo, enfin Mojo, le nom de mon chien. Et donc au début, on avait fait une première V1 de notre identité visuelle avec ce logo, etc. Et en fait, assez rapidement, on s'est rendu compte que nos clients, ils avaient du mal à se souvenir de Entomojo. Donc ça, c'était déjà un frein. On se disait... Ah. Et puis, en plus de ça, il y avait pas mal de fermes d'insectes qui s'appelaient Entomo quelque chose, parce que ça veut dire insecte. On s'est dit peut-être que c'est pas forcément le meilleur branding. Et donc, je pense que c'est vraiment au bout d'un an qu'on a fait ce travail de se poser qu'est-ce que c'est en fait notre mission, comment est-ce qu'on veut que les gens ils se souviennent de nous. Et nous on est parti sur le constat que pour nous le plus important c'était le mojo, donc c'était redonner le mojo à la planète, à nos animaux, donc la joie de vivre, etc. Et c'était un peu moins la partie insecte qui pour nous est un moyen certes, mais c'est pas forcément une fin. Donc on est parti sur Tomojo. Et ça, c'était beaucoup plus facile déjà en termes de marketing, etc., de faire un logo qui était un peu plus frappant et parlant. Et après, effectivement, on a fait un gros travail sur les packagings. Donc, je dirais que notre identité, elle est très forte grâce à ces packagings qui étaient quand même assez innovants à l'époque dans la pet food. Et donc, on a un peu décliné toute notre identité visuelle grâce à ces packagings. Et ensuite, on a fait le travail sur notre site internet, etc. Mais je dirais que tout a décollé du packaging. Et ensuite, pour ce qui est de la presse, je pense qu'on a... On a eu de la chance, entre guillemets, parce qu'on est arrivé à un moment où les insectes, ils étaient quand même assez en vogue avec toutes ces grandes fermes d'insectes qui ont fait des constructions de fermes, des levées de fonds assez importantes, donc Innovafeed, Insect, Protix en Hollande. Et donc, les journalistes, je pense qu'ils étaient déjà un peu sensibilisés à ces protéines nouvelles. Et nous, quand on arrivait avec notre communiqué de presse, donc la première année, on a été épaulés par Willa, par exemple. La personne en charge de la communication avait des contacts avec certains un journaliste des Échos, elle.
Ah, super.
Et donc ça nous a vraiment aidé aussi à montrer que nous, on était une application directe de ces fermes d'insectes qui étaient en train de se développer en Europe. Et aussi, tout l'aspect, une prise de conscience réelle des consommateurs pour l'alimentation humaine. Et donc, nous, on répondait un peu à ce miroir sur les animaux domestiques en termes de questionnement. Nous, on se regarde vachement en termes de l'impact que j'ai via mon alimentation, etc. Mais est-ce que vous avez pensé à l'impact de votre animal de compagnie? Donc, je pense que ces deux clés d'entrée-là, ça a fait qu'on a pu décrocher pas mal de retombées presse. Et puis après, on a fait appel à une agence, donc Clara Moreno. Et ça nous a aussi aidé. Ça fait 2 ans maintenant qu'on travaille avec Clara pour peut-être un peu plus cibler la presse spécialisée, donc LSA. Plus on avançait en fait dans la distribution en retail, en grand magasin, en GSA, donc grande surface alimentaire, plus on avait un peu besoin d'aller solliciter des médias un peu plus spécialisés.
Oui, bien sûr. Et moi, je trouve ça hyper intéressant aussi parce que c'est vrai que c'est ce que je trouve différenciant aussi chez vous. C'est au-delà de proposer une alternative, on peut se dire « Ah, c'est sympa !» et puis se poser la question. C'est que par exemple, sur votre LinkedIn, la première phrase, c'est « Savez-vous qu'un chien pollue autant qu'un 4x4 à cause de son alimentation ?» Et c'est vrai que ça pose la question de, et ce qui est souvent le cas dans l'impact, vulgariser ou de faire connaître, de générer la prise de conscience. Parce qu'en fait, j'ai un chien, Owen, et je n'ai jamais alors que je suis quand même très engagée, etc., je n'ai jamais réfléchi au fait qu'il mangeait des croquettes à la viande matin et soir, quoi, et l'impact que ça pouvait avoir. Donc cette phrase, moi, c'est ça qui m'a marquée, en fait, chez vous. Est-ce que vous avez eu est-ce que vous l'avez réfléchi plus ou moins, et est-ce que vous avez eu des retours là-dessus de la part de vos clients qui ont eu une prise de conscience grâce à vous, ou est-ce qu'en fait, est-ce que vos clients, ils avaient déjà conscience avant du problème?
Ouais, alors je pense qu'il y a des deux, mais je pense que nos early adopters, donc vraiment les tout premiers clients qu'on avait, c'était vraiment des personnes qui étaient sensibilisées aux enjeux écologiques et qui connaissaient déjà en fait les bienfaits des protéines d'insectes et qui voyaient l'intérêt de substituer la viande conventionnelle dans les croquettes ou de la nourriture humide par des insectes pour nourrir leurs animaux. Et ensuite, il y a toute une deuxième partie où effectivement, il fallait faire ce travail de pédagogie et d'expliquer. Vous savez que quand on nourrit nos chiens et nos chats, effectivement, il y a à peu près 30%, c'est de la protéine animale. Et cette protéine animale, elle vient de quelque part. Elle a été élevée, elle a été nourrie, elle a été... elle a un impact sur l'environnement. On ne peut pas partir du principe que... Parce que ça, c'est aussi une critique qu'on reçoit assez souvent. C'est on utilise des sous-produits de viande d'animaux, donc ça n'a pas d'impact. En fait, à partir du moment où les sous-produits de viande, ils ont une valeur économique, puisque l'industrie de la pâture, elle achète ces sous-produits de viande, il faut la quantifier. Enfin, nous, en tout cas, on part du principe qu'il faut quantifier cet impact sur l'environnement. Donc après, nous, comment on a fait pour essayer de quantifier cet impact? On s'est rapproché de nos fournisseurs d'insectes qui eux-mêmes ont fait des analyses de cycle de vie pour la production de leurs protéines d'insectes. C'est un travail vraiment en continu parce que eux-mêmes, ils ont fait appel, enfin, ils ont essayé de mettre en place des systèmes qui sont de plus en plus efficaces, donc notamment pour l'utilisation de l'énergie. Donc, ils utilisent de plus en plus des énergies renouvelables et tout. Parce qu'effectivement, une des critiques de l'insecte, c'est que En termes d'utilisation d'eau, c'est extrêmement efficace. Enfin, franchement, il n'y a pas photo par rapport à de la viande conventionnelle, même du poulet qui est une source de protéines quand même assez efficace. Mais enfin, les insectes, ça n'a rien à voir. En termes d'utilisation d'espaces agricoles, c'est des fermes verticales. Et en fait, l'intérêt des insectes, c'est qu'ils ont une capacité à convertir des aliments qu'on leur donne à manger en protéines que nous, on peut utiliser pour les recettes, etc., qui est ultra efficace aussi. Et le seul truc qui est un peu discutable, entre guillemets, c'est l'utilisation d'énergie, parce qu'effectivement, c'est des insectes qui sont élevés à une température bien constante, etc. Mais le fait que ces usines, les fermes d'insectes, elles utilisent de l'énergie renouvelable, ça permet vraiment de réduire cet impact-là. Donc, je dirais que l'impact, dès le début, il y a des études qui ont été faites. Par exemple, le 4x4, c'est sorti d'une étude qui est sortie aux États-Unis. Et je pense que tout est contestable, mais en tout cas, nous, on part du plus proche, quoi, de nos fournisseurs, etc., etc. Et au fur et à mesure, on met à jour nos analyses de cycle de vie.
Hyper intéressant. Et du coup, si on revient sur vraiment ces campagnes de Noto, c'est ce qu'on se disait avant de démarrer. En fait, il y a deux aspects. Il y a eu l'aspect vous faire connaître, les levées de fonds. Donc, c'était le bon timing. Donc, avec votre attaché de presse, du coup, vous avez réussi à avoir plein de retombées au final. Donc, aussi, tu dis que c'était donc un bon timing, parce que je vous laisse regarder, les auditeurs. Si vous mettez Tomojo dans Actualité Google, c'est les échos, challenges, etc. Donc, c'est plein de médias dans lesquels les entrepreneurs de l'impact, ils aimeraient bien passer. Ou en tout cas, vous en avez quand même beaucoup, je trouve, de retombées dans tout ça. La deuxième partie que tu disais, c'était justement, ça fait le lien avec ce qu'on se disait sur la prise de conscience, c'est justement que vous avez réalisé qu'au final, vous aviez un manque de notoriété et qui faisait que c'était aussi peut-être compliqué de convertir les gens ou en tout cas qu'ils adhèrent à ce que vous racontiez. Donc, il y avait besoin de faire quelque chose là-dessus. Est-ce que tu peux justement me raconter un peu comment ça s'est passé, cette prise de conscience à votre niveau, et puis la réponse que vous avez apportée?
Oui. Alors nous, ça fait quelques années qu'on fait du street marketing, ou même qu'on récupère des témoignages de nos clients, comment est-ce que vous nous avez connus, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que beaucoup, c'était du bouche à oreille, donc c'était des personnes qui expliquaient le concept parce que eux-mêmes ils avaient testé, etc. Mais que ceux à qui on distribuait des échantillons dans la rue, en fait, ils ne connaissaient pas le concept de donner des insectes à leurs animaux domestiques, mais qu'une fois qu'on leur expliquait vraiment les bénéfices en termes de nutrition et en termes de production qui œuvre en faveur du développement durable, ils étaient super intéressés. Et donc on se disait, comment est-ce que nous on peut toucher le plus grand nombre à Paris, puisque pour l'instant ça reste quand même une majorité de nos clients, et le seul écueil, c'est qu'ils ne connaissent pas ce concept. Donc notre objectif, c'est vraiment d'essayer d'éduquer. Et donc on a fait appel à effectivement une campagne d'affichage, donc dans 300 facings dans les métros pendant une semaine en avril. Finalement, ça a été un peu plus qu'une semaine, on était ravis. Mais les objectifs vraiment qu'on s'est fixés pour cette campagne, c'était d'interpeller et de susciter une réaction, que les gens se souviennent de notre concept et de Tomojo. Donc, c'était vraiment un objectif de notoriété plus que de convertir, de faire des ventes, etc. Bien sûr, on est ravis si on fait des ventes, mais disons que nous, on part du principe qu'on a un produit qui est assez innovant, on a besoin de pas mal d'éducation et de pédagogie, et donc en règle générale, quand quelqu'un passe à l'achat, on dit qu'il a eu à peu près 8 touch points, donc il l'a vu dans un magazine, dans une pub, sur Instagram, etc. Et nous, c'est un peu plus que ça même, c'est genre 10, 12. Donc là, le fait de faire une campagne de notoriété, on a pu toucher beaucoup de personnes, et ça a fait ces touch points justement. Et ça nous a permis de toucher une nouvelle cible là où sur Instagram ou sur les réseaux sociaux ou dans la presse, ça reste quand même assez ciblé en termes de personnes, etc.
Donc, et du coup, comment c'est ? Donc, vous avez mis en place cette campagne. Au final, une semaine, tu dis un petit peu plus, mais c'est quand même relativement court, parce que souvent, on peut se faire un monde sur les campagnes d'affichage, aussi sur les budgets, etc. Donc, du coup, vous faites ça. C'est quoi concrètement les résultats que vous avez vus derrière ?
Donc nous, ça s'est vraiment traduit en termes de trafic sur notre site internet et de requêtes du mot Tomojo ou croquettes aux insectes sur les recherches Google. Donc par exemple, pour donner un chiffre, on a eu plus 40% de trafic sur notre site pendant la campagne. Mais après, il y a eu, ça a eu des effets même jusqu'en juillet. On a des personnes qui disent qu'ils nous ont connu via la campagne de notoriété. Donc, premièrement, c'était le trafic, et ensuite, on a quand même eu une hausse de nos commandes, etc. Mais je dirais que le mot-clé croquette aux insectes et Tomojo, il a vraiment eu beaucoup plus d'ampleur après la campagne de notoriété.
Non, mais c'est hyper intéressant de voir vos indicateurs. Et vous n'avez pas eu de soucis sur l'approvisionnement, du coup, du fait de la montée des commandes?
Non, ça, on a géré, on a fait des prods, etc. Non, on a Arthur et Marine qui gèrent très très bien cet aspect appro.
Qui ont pu gérer d'une main de maître, parce que j'imagine que oui, quand tu vois d'un coup les commandes qui augmentent, il faut aussi pouvoir suivre. Mais vous n'avez pas vos propres usines, vous travaillez vraiment avec des fabricants.
Ouais, nous on travaille avec deux fabricants en France, en Mayenne et en Vendée. Et oui, pour nous, c'est un travail vraiment différent, la production de croquettes. Nous, en fait, on fait un cahier des charges. Pour revenir un peu dessus, c'est vrai que pour nous, c'est hyper important la traçabilité, oui. De savoir d'où viennent la source de protéines, mais aussi les autres ingrédients, etc. Donc, par exemple, on a 98% des ingrédients dans nos recettes qui sont européennes, dont 55% en France. Et quand Paula et moi, on a voulu faire le cahier des charges de qu'est-ce que c'est la recette Tomojo, c'est vraiment, pour nous, c'était important que ce soit local, quoi, le plus local possible. Et ensuite, on avait aussi cet aspect traçabilité, donc de la protéine, chose qui, dans l'alimentation pour les animaux, est assez difficile quand même. Enfin, c'est rare que sur les packagings, on voit d'où vient la protéine qui est utilisée. Tous les bienfaits des insectes, mais ça, j'en ai déjà parlé. Et ensuite aussi, le packaging. Pour nous, c'était hyper important d'essayer d'aller vers des alternatives qui soient facilement recyclables. Donc, on a un packaging qui est fait en papier, avec de l'amidon de maïs à l'intérieur. Et ça ne vient pas sans complications de temps en temps, puisque c'est un peu plus fragile que du plastique recyclé, etc., ou du plastique tout court. Mais pour nous, c'était assez important d'essayer de trouver un packaging plus durable.
Et au niveau du prix final pour le consommateur, est-ce qu'il y a une grande différence du fait justement de tous ces choix-là ? Est-ce que vous l'expliquez, ou est-ce qu'au final, vous arrivez à être compétitif par rapport à des croquettes traditionnelles ?
Alors oui, nous on explique très bien notre prix. Disons que on est positionné premium, donc c'est-à-dire qu'on est comparable à des croquettes. Il y en a de plus en plus, des marques dites premium dans la pet food, mais disons qu'on est comparable à des marques qui sont bio, qui sont sans céréales. Il y en a beaucoup qui sont tendance naturelle. Enfin voilà, toutes ces marques qui utilisent des ingrédients ou des formulations premium. Ensuite, nous je dirais que le prix, il est aussi fixé par le fait que la protéine d'insecte, elle coûte quand même plus cher que de la viande conventionnelle. Donc ça, c'est quelque chose, pour l'instant, on espère que la tendance va s'inverser au fur et à mesure, mais pour l'instant, c'est vrai que c'est un produit qui nous coûte cher à fabriquer. Et c'est une production qui est faite en France et tout. Donc c'est vrai que, oui, on est un positionnement premium, mais c'est vrai que c'est super important pour Paola et moi qu'on reste accessible. Donc, je pense qu'on fait des compromis là où d'autres marques ne les font pas forcément. Okay. Mais on essaye vraiment d'avoir un prix qui soit accessible. Donc, on propose un abonnement sur notre site internet. On est dans de plus en plus de points de vente, Carrefour, par exemple. Enfin, voilà, on essaye d'être accessible non seulement par les points de vente, mais aussi par le prix.
Et du coup, les points de vente, ils sont plutôt en Île-de-France?
Sur notre site internet, on livre partout, mais effectivement, pour les points de vente fixes, on est dans des Carrefour Market en Île-de-France, on est dans de plus en plus d'animaleries, par exemple la niche du BHV à Paris, mais aussi dans d'autres magasins vrac. Et là, pour le coup, les magasins vrac, ça fait depuis le début qu'on le fait. Donc, par exemple, on est dans les drives tout nus, on a commencé à Toulouse, mais voilà, il y en a de plus en plus. On est aussi en test dans des magasins casinos, plutôt dans le sud de la France. Donc, on a de plus en plus de points de vente partout en France.
Et ça, vous avez, pour finir un peu sur ce sujet, parce que c'est toujours intéressant, ça, c'est vous avez mis en place une vraie stratégie sur la distribution. C'est comment vous avez un peu organisé ça pour pouvoir être distribué au-delà du site internet?
Donc, au début, on a effectivement commencé en ligne, comme beaucoup de nouvelles
entreprises.
Voilà. Assez rapidement, on a eu des opportunités, notamment avec Carrefour Market. Ça, c'était clairement une opportunité via Ticket for Change, un contact, etc. Et on a gardé ce contact. Et c'est pour la petite anecdote, le premier rendez-vous qu'on avait fait avec Carrefour, il nous avait dit, franchement, on adore, on croit aux insectes, mais on pense que c'est beaucoup trop en avance. On pense que c'est plutôt à horizon 10 ans. Donc on était parti un peu déçus forcément de ce premier rendez-vous. Et puis finalement, au bout d'un an, ils sont revenus nous voir. Ils nous ont dit, en fait, on aimerait potentiellement faire un test, etc. Donc c'est un peu comme ça qu'on a commencé. Et après, pour le reste, je dirais que on a une stratégie où on a voulu tester d'abord nos friandises, donc on a des friandises mouches dans des animaleries, parce qu'on s'est dit bah, c'est plus simple comme clé d'entrée pour que les gens y testent, etc. Et là maintenant on est dans une phase où on essaye aussi de faire référencer nos croquettes. Donc c'est vrai que en termes de stratégie, on a été plutôt en ligne au début, et puis maintenant on essaye vraiment d'être présent là où les consommateurs ils font leurs courses d'alimentation pour chien et chat. Et en effet, il y en a sur internet, mais il y en a aussi beaucoup en proximité, quoi.
Et c'est hyper intéressant ce que tu dis du coup sur justement cette approche croquettes versus friandises, parce que effectivement, même en ayant un chien et même en étant, comme je disais tout à l'heure, hyper engagé, etc., c'est vrai que directement d'acheter des croquettes, on se dit ah bah, qu'est-ce que je fais du paquet s'il aime pas, alors que c'est vrai que les friandises c'est beaucoup moins engageant, ça permet de faire un premier pas. Donc du coup, ouais. Et les animaleries, elles ont plutôt bien vu le fait de référencer ce type de nouveaux produits. Vous avez eu des bons retours?
Ouais, ben justement, c'est un lien avec la campagne de notoriété, parce que c'est vrai que un des freins qu'on pouvait avoir avant, c'était les insectes c'est le futur, mais je pense pas que nos consommateurs sont prêts. Donc ça, c'était vraiment un frein auquel pas tout le temps, hein, heureusement, mais ça arrivait qu'on ait ce type de retour. Et grâce à la campagne de notoriété, je pense qu'il y a plusieurs enseignes qui se sont rendues compte que ben effectivement, on mettait vraiment le paquet sur l'éducation et la pédagogie, et que non, c'était pas une histoire de dans 10 ans, c'était vraiment maintenant, quoi. Enfin, il fallait les modes de consommation, ils sont en train de changer, les consommateurs ils sont prêts à donner des insectes à manger à leur chien, à leur chat. Il faut juste éduquer effectivement et rassurer le consommateur,
et limite même passer d'abord par le chien et le chat avant de passer à sa propre nourriture. Ça me semble même limite plus simple, en fait.
Puis une chose qui nous aide aussi beaucoup, c'est qu'on peut faire des dégustations. Donc souvent dans des animaleries, les chiens et les chats ils sont autorisés. Et là, quand on a une gamelle et que les chiens ils se jettent dessus, bah, c'est sûr que ça aide beaucoup à rassurer le consommateur.
Trop, ouais, hyper intéressant. Je pense qu'il y a plein de billes, effectivement. Mais en tout cas, ce process par étape, et d'avoir d'abord choisi un produit plus accessible, moins limitant, ça semble hyper pertinent, ouais. Il nous reste quelques minutes pour parler alors d'impact. On en a déjà parlé tout au long de notre échange là déjà, mais j'aurais bien juste voulu que tu nous dises un petit mot sur les aides de Gennevilliers et comment vous avez mis ce partenariat en place. Et puis, puis on finira sur les petites questions de la fin.
Ouais, alors le partenariat avec les aides de Gennevilliers, donc en fait, les aides, c'est un établissement et service d'aide par le travail. Donc c'est des personnes qui sont en situation d'handicap souvent, et donc nous, jusqu'à l'arrivée d'Arthur chez nous, on faisait les échantillons nous-mêmes. C'était assez répétitif, ça nous prenait beaucoup de temps, et c'était une galère parce qu'il fallait qu'on fasse des sacs et des sacs d'échantillons dans nos bureaux, donc c'était pas forcément hyper optimisé. Et Arthur, il a dit, franchement, moi, ça me tiendrait vraiment à cœur qu'on fasse appel à un ESAT. C'est typiquement le genre de projet qu'ils savent très bien faire,
C'est venu de quelqu'un de l'équipe.
C'est venu de quelqu'un de l'équipe. C'était vraiment un engagement personnel d'Arthur, et Paul et moi, on était vraiment ravis qu'il propose ça. Et effectivement, donc il a visité les aides des Gennevilliers, et ils étaient assez contents. Enfin, même ils sont toujours très contents de faire. Non, mais vraiment, parce que c'est ludique. On a des étiquettes de couleurs différentes, etc. Enfin, je crois que souvent c'est assez répétitif, ou peut-être un peu
monotone
Ouais. Et nous, bon, ça reste répétitif, mais je pense que en tout cas, c'est les retours qu'on a eu, c'est que c'est un projet qui leur tient à cœur, et c'est Arthur vraiment qui a fait la formation, etc., qui a expliqué comment nous on faisait les coffrets, gnagnagna, et nous ça nous a permis aussi d'être un peu plus grande échelle, quoi, de pouvoir faire beaucoup plus d'échantillons, et c'était vraiment du gagnant-gagnant. Donc on est ravis de ce partenariat. Et ensuite, pour parler un peu plus aussi de notre impact social, moi, j'ai fait un stage il y a longtemps dans une ONG qui s'appelle Fauna and Flora International, et ça m'avait vraiment marqué parce que la mission de cette ONG, c'est de protéger les écosystèmes et la biodiversité, notamment des espèces qui sont menacées de disparition. Et moi, je me suis dit, bah, avec Tomojo, effectivement, on nourrit des chiens et des chats, mais moi, et l'équipe, on partage vraiment la conviction que la biodiversité est en train de disparaître vraiment à vitesse grand V, et au-delà de notre engagement vis-à-vis de notre produit, et on essaye de faire changer les modes de consommation et faire réfléchir sur l'impact des animaux domestiques, on aimerait aussi avoir un engagement un peu au-delà de ça et pour la protection de la biodiversité. Et du coup, on a fait ce partenariat avec FFI qui via la vente de nos coffrets, donc on appelle nos coffrets découvertes pour des personnes qui veulent tester nos produits auprès de leurs chiens et leurs chats, on reverse de l'argent pour cette association qui soutient des tigres du Sumatra et des chiens sauvages d'Afrique. Donc c'est hyper, nous on trouve que c'est hyper lié à notre projet, mais on part du principe que tous les chiens et les chats de la Terre ont le mérite de vivre et d'exister dans une planète qui leur permet de survivre. Et donc, voilà, c'est aussi une autre forme de notre engagement.
Pour l'équilibre, la biodiversité, justement, c'est le fait d'avoir un maximum de diversité. Donc,
c'est ça.
Donc, c'est un gros, gros sujet aujourd'hui. Et en plus, c'est aussi un gros sujet qui a du mal à arriver dans les entreprises. Enfin, qui vient dans les entreprises, la notion de biodiversité, mais qui est compliquée à prendre en main, en fait. Comment on fait le lien avec son activité, etc. C'est vrai que vous, il y a quelque chose d'assez peut-être évident, en tout cas, sur le côté
faune. C'est ça. Et là, il s'agit de la biodiversité qui est assez loin, finalement, en Afrique et en Indonésie. Mais en France aussi, on essaye de sensibiliser à la protection de la biodiversité, des petits tips pédagogiques sur des posts Instagram, des choses comme ça. Où est-ce que je peux amener mon chien en balade pour ne pas déranger la faune et la flore. Enfin, voilà, des choses assez pratiques, finalement. Mais on veut vraiment être une référence pour des personnes qui se posent toutes ces questions-là par rapport à l'impact qu'eux, ils ont et leur animal a sur l'environnement.
Ou même, et enfin, moi ce que je retiens beaucoup avec vous, c'est vraiment aussi et les choses dont ils n'ont pas conscience. Parce que, par exemple, tant qu'on n'a pas conscience de pourquoi il y a des barrières sur certaines balades ou sur certaines randonnées où on nous dit ne pas aller là, bon, bah c'est chiant, pourquoi on pourrait pas aller là? Mon chien il va être content, mon enfant.
Ouais, c'est ça.
Alors que si je comprends qu'en fait c'est parce qu'on va déranger la faune et la flore et du coup on va bouleverser les équilibres et qu'il suffit juste de rester sur son chemin, bah voilà, c'est encore une fois de la pédagogie, quoi.
Merci beaucoup pour tout ça. Écoute,
vraiment hyper intéressant d'avoir fait un bon tour de Tomojo. Me restent les dernières questions que j'aime bien poser.
Oui.
Et la première, c'est à quel moment l'entreprise elle aurait pu capoter au final, depuis son lancement?
Je pense que ça rejoint pas mal d'entrepreneurs, ce qu'ils ont pu déjà dire, mais pour moi, c'est constamment, disons que en fait c'est l'éparpillement. Au début de la commercialisation de notre produit, on était vraiment, il fallait qu'on prouve qu'il y avait de la traction, etc. Donc je pense qu'on avait plutôt tendance à accepter pas mal de sollicitations qu'on pouvait avoir, et au fur et à mesure je pense que ça peut vraiment on a des ressources limitées, et que ce soit en moyens financiers ou en moyens humains, et effectivement parfois c'est assez difficile de voir qu'est-ce qui vraiment pourrait nous aider à accélérer et qu'est-ce qui en fait ce serait de l'éparpillement peut-être plus tard, mais tout de suite là maintenant il faut qu'on se concentre sur l'essentiel. Et je pense que ça c'est un grand défi qu'on a à relever au quotidien.
Ok. Et oui, en effet, qui semble très partagé. En tout cas, nous, on le voit avec nos clients et tout. C'est souvent aussi un grand sujet. Comment on priorise et comment on reste focus, quoi.
Ouais.
Et c'est quoi votre gros défi marketing à venir?
Je pense que c'est de l'éducation.
Non,
mais voilà, je pense qu'il faut être honnête. Nous, c'est pas le type de produit où ça se retrouve sur dans un rayon Carrefour et les gens ils se l'arrachent, quoi. Il faut que via les claims qu'on met en avant sur le packaging, via tout le travail qu'on fait sur les réseaux sociaux ou sur via des campagnes de notoriété, il faut qu'on suscite l'intérêt des gens, mais aussi qu'on les rassure sur
les animations aussi.
Ouais, voilà, on fait des animations, etc. Mais il faut qu'on puisse les rassurer et leur donner envie de vraiment passer à des croquettes à base d'insectes comme alternative durable et pas juste quelque chose d'anecdotique. Ah, j'ai fait tester mon chien des croquettes aux insectes, mais qui se disent pas vraiment, c'est une alternative dans le temps, quoi.
Pas juste. Et puis ce qui est intéressant, c'est que vous êtes, enfin, ce qui est la problématique, je la trouve assez passionnante parce que vous êtes sur un pain point qui est pas un pain point produit. Vous venez pas répondre à une problématique de marché, genre toutes les croquettes sont pas bonnes ou il y a un truc d'approvisionnement, ils sont jamais. Il y a pas de problème en fait avec les produits. On peut continuer pendant 10 ans avec les produits qu'on a. Vous apportez une solution plutôt à l'enjeu environnemental et donc c'est une autre dimension, quoi.
Ouais, bah, je pense que nous on veut vraiment essayer de proposer une alternative aux consommateurs, c'est-à-dire que oui, effectivement, il y a des croquettes sur le marché et je pense qu'on questionne pas vraiment d'où ça vient, etc. Et je trouve que c'est un peu dommage, donc on essaye quand même de bousculer les normes dans ce sens-là. Mais effectivement, on se positionne vraiment comme une alternative et on part pas du principe qu'il faut nourrir tous les chiens et les chats de la terre avec des insectes. C'est juste, c'est une clé pour essayer de répondre aux défis et aux enjeux climatiques auxquels on fait face là, très concrètement. Et voilà, on essaye de diversifier les sources de protéines, ouais, et de les normaliser.
Est-ce que tu aurais un petit conseil marketing pour les auditeurs? Ou un grand conseil d'ailleurs.
Ouais, alors moi je dirais que c'est revenir à la simplicité. Et je dis ça parce que typiquement, pour notre campagne de notoriété, on était parti sur des pictos, une baseline, notre logo, notre site internet, notre. Enfin, ça devenait assez compliqué. Et en fait, le meilleur moyen pour tester et voir si ça a l'effet voulu sur les consommateurs, c'est juste d'aller tester dans la rue. Donc, on a imprimé nos affiches qu'on voulait afficher dans le métro. On leur a dit qu'est-ce que vous comprenez, quelle est l'information principale dont vous vous souvenez, etc. Et même si ça a l'air hyper bateau et intuitif, enfin ça nous a sauvés, quoi, parce que nous sinon on allait imprimer 300 affiches où l'information principale elle passait pas du tout. Donc ouais, on a vraiment maintenant on fait systématiquement ça.
Si c'est génial,
packaging et tout, on va dans la rue, on demande aux gens.
Oui, mais c'est absolument génial parce que la plupart des gens le font pas au final. Ça va être fait en vase clos et puis on voit ce qui se passe, quoi. Donc c'est génial d'aller confronter.
Ouais, on fait un appel à une agence marketing qui souhaite connaître très bien son métier, etc. Mais le plus important, c'est quand même ce que le client ou le consommateur comprend, quoi.
Bah toujours. Ouais. Mais clairement. Ok. Et ben écoute, me reste à te poser la question d'une inspiration pour toi. Tu m'as parlé d'une campagne de lobbying hyper intéressante. Je te laisse raconter ça.
Ouais. Alors moi, ce qui m'a tenu en haleine ces derniers jours, c'était la campagne menée par les protéines alternatives, donc des marques comme La Vie, Happyvore, Umami, etc. Oui. Puisqu'ils ont été attaqués par l'industrie, le lobby de la viande, Interbev, disant que ils ne pouvaient plus utiliser le mot de vocabulaire, par exemple comme steak ou saucisse ou lardon, etc. pour qualifier les alternatives végétales, donc steak végétal. Et donc c'est quand même monté au Conseil de l'État parce qu'il y avait un décret qui disait que en octobre ils allaient devoir changer tout leur packaging, tout leur marketing, enfin quelque chose de vraiment très très lourd pour une start-up ou même des PME, etc. Et finalement, ils se sont, ils ont protéines végétales, je crois, le lobby des protéines alternatives a su se faire entendre et hier, ça date d'hier, ils ont pu obtenir l'annulation de ce décret et donc a priori, ils auraient le droit jusqu'à nouvel ordre de continuer à appeler leurs produits steak végétal et compagnie. Et en fait, ça a aussi soulevé un autre problème, c'est que ce décret, il allait que être pour des marques qui produisaient en France. C'est-à-dire que une marque qui produit en Belgique et qui vient en France et qui appelle son steak à quelque chose végétal, c'était autorisé. Et donc, c'était quand même ultra injuste vis-à-vis de ces marques qui essayent de faire une démarche où on produit localement, etc. Et donc, oui, ça m'a vraiment tenue en haleine. Et je trouvais que la communication que spécifiquement La Vie a faite était très très bien joué. Donc, ils ont par exemple publié dans Le Parisien cette semaine une lettre à envoyer au lobby de la viande. Enfin voilà, c'était vraiment très engagé et je pense que ça a fait bouger les choses.
Ça a porté ses fruits et c'est effectivement hyper intéressant. Et c'est vrai que le lobbying est aussi un axe de sensibilisation et un axe d'influence pour les entreprises qui veulent faire bouger les choses sur leur ouais, mais sur leur secteur, et c'est pas super facile, surtout le lobby de la viande, quand t'as le lobby de la viande en face, qui est un des plus puissants.
Il faut quand même avoir les moyens et le temps.
Donc c'est énorme. Bah, on mettra les références justement pour pouvoir aller voir ça par intérêt. Alors sur l'aspect com évidemment, et puis aussi sur le sujet même, de voir comment en fait c'est des enjeux énormes, parce que c'est clair qu'en termes de business pour eux, enlever le mot steak de végétal, bon bah forcément, pour gagner des nouveaux clients, ça va devenir compliqué, quoi.
Puis il n'y avait pas vraiment de terminologie possible, quoi. C'était
très compliqué. C'est ça. Donc, ben, on leur souhaite qu'il n'y ait pas de nouvel ordre, que ça reste comme ça. Pour finir, est-ce que tu aurais un acteur à me recommander pour ce podcast ?
Oui, alors autre acteur que Nicolas Delavie, je voulais parler de Marion et Laura qui font une boisson qui s'appelle Osco. Et Osco, c'est une boisson sans alcool, mais qui utilise des saveurs vraiment hyper intéressantes. Je ne me souviens plus du nom, mais c'est vraiment une boisson goûtue et une alternative sans alcool pour ses apéros de la semaine, quoi. Et elles ont un packaging très sympathique aussi, donc je vous invite à aller voir.
Mais carrément, on mettra aussi la référence, et je les ai vues de passage à Paris dans une épicerie dédiée, et effectivement le packaging était hyper sympa.
Ouais.
Eh ben écoute, merci beaucoup pour toutes ces infos, tous ces partages. Écoute, je vais continuer moi à donner mes friandises à insectes à Owen. Je t'enverrai une petite photo pour prouver qu'il les a mangées. Et puis je te souhaite une très belle continuation.
Merci pour l'invitation. Ouais, merci Mélodie.
De rien. À bientôt.
Si vous êtes arrivé au bout de cette causerie, c'est sans doute qu'elle vous a plu. Pour être averti des prochains épisodes, inscrivez-vous à la newsletter Business Positif et abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Et puis j'imagine qu'on vous le demande souvent, mais c'est tellement précieux d'avoir votre soutien. Alors s'il vous plaît, prenez une petite minute pour partager cet épisode autour de vous et le noter ou lui laisser un commentaire sur Apple Podcasts. À très vite !